C'est l'une des émissions phares de France Télévisions sur l'environnement. Ça s'appelle Sur le front et l'émission revient avec de nombreux changements. Nouveau format, nouvel horaire et nouvelle chaîne, France 5, un dimanche par mois à 20h50. Mais l'essentiel ne change pas. Il s'agit encore de raconter les combats menés pour défendre la nature et donc de garder espoir. Série documentaire toujours présentée, incarnée par Hugo Clément. Bonjour.
Bonjour Philippe.
C'est vous qui incarnez, je l'ai dit, Sur le front. Vous la produisez également avec Régis Lamanna-Roda, qui est l'ancien producteur éditorial de C'est à vous. Pas mauvaise référence. Ça faisait 7 mois qu'on attendait le nouveau numéro de Sur le front. Il arrive après-demain dimanche. Donc, vous-même, vous êtes de retour sur le terrain. Vous êtes allé en Amazonie où on s'alarme de la situation là-bas depuis des années. Pourquoi y être allé maintenant?
On y est allé en septembre-octobre. Le tournage a eu lieu en septembre-octobre sur invitation en fait du chef Raoni qui était venu en France et qu'on avait rencontré à cette occasion-là.
Le chef Raoni, c'était celui qui a sa bouche à plateau et que Sting avait fait connaître
exactement,
au monde entier.
Exactement. C'est le chef indigène le plus connu qui mène le combat pour la forêt depuis très longtemps, il a plus de 90 ans maintenant, et il nous a contacté à la fin de l'été pour nous dire la situation est vraiment très grave en ce moment, très inquiétante, à la fois sur le front de la déforestation et du coronavirus. Il faut que vous veniez pour relayer notre message et arriver à nous faire entendre.
La déforestation massive, vous donnez un chiffre inquiétant, terrifiant. Chaque minute, une superficie équivalente à 3 terrains de foot part en fumée dans l'Amazonie. Donc, depuis le temps qu'on se parle,
l'Amazonie brésilienne en plus.
Il y a déjà 3 terrains de football qui ont disparu. Et puis, ce qui vous a intéressé également, c'est de montrer que nous, en France et plus largement en Europe, nous avons une part de responsabilité dans la situation sur place. Et les indigènes que vous avez rencontrés en ont bien conscience. C'est Paraoni. C'est un exemple avec l'un des caciques du peuple Kayapo.
Quand vous rentrerez, dites aux hommes politiques français qu'ils doivent planter leur propre soja, qu'ils élèvent leur bétail là-bas et qu'ils arrêtent d'acheter des choses ici au Brésil. C'est à cause de cela que les Brésiliens coupent tout, détruisent nos forêts. Ils brûlent tout. Dites à votre gouvernement d'arrêter d'acheter ce qui vient du Brésil.
Pour faire lien avec ce que dit le chef Kayapo, quel est le lien justement entre la déforestation au Brésil et notre situation ici en France?
Principalement à travers l'importation de soja qu'on fait. On importe plusieurs millions de tonnes de soja brésilien chaque année et ce soja, il est planté à la place de la forêt brésilienne. C'est le premier facteur de déforestation, c'est lié à l'élevage, puisque c'est pas du soja qui est consommé par les êtres humains en France, c'est du soja qui est destiné aux animaux d'élevage, les poulets, les porcs et dans une moindre mesure les bovins.
L'une des particularités de l'émission Sur le front, c'est de suivre au plus près le combat de personnes engagées dans la défense de l'environnement, une ethnologue, des vétérinaires, une française qui constitue patiemment et méthodiquement un dossier juridique contre le président brésilien Jair Bolsonaro. Et puis c'est exceptionnel, vous avez réussi à accompagner les membres d'un groupe appelé les gardiens de la forêt.
Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce groupe, mais ils ouvrent rarement leurs portes.
Et la pintura,
vous avez la peinture, vous avez préparé les flèches aussi. D'accord.
Ok.
Les gardiens de la forêt montent au front pour défendre leurs arbres.
Allez, c'est parti.
Et cette fois, ils ont accepté que nous les suivions dans leur lutte.
L'Amazonie, pour moi, c'est la vie. Et la vie de ma tribu. Quand je suis avec les guerriers, si on croise un coupeur de bois, on le met dehors ou on le brûle. On lui met le feu.
Vous êtes prêts à mourir pour défendre cette forêt?
Pour la défendre? Évidemment. Je lâcherai jamais.
Alors je dois dire que l'image est très 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 impressionnante quand on les voit à demi nus se mettre des peintures tribales sur le visage et avec des arcs, des lances et des flèches. Qui sont ces gardiens de la forêt et que font-ils concrètement?
Alors ce sont des indigènes qui appartiennent au peuple des Guajajars. Les Guajajars, ils vivent dans une réserve qui est littéralement encerclée par les champs, par l'expansion agricole. Et donc ils ont un discours, on le voit, qui est très guerrier. Ils disent si on les trouve, on les expulse, on les brûle. Alors quand ils disent on les brûle, ils parlent de leur matériel, pas des coupeurs de bois en eux-mêmes. Et s'ils ont un discours aussi, on va dire radical, c'est parce qu'en face, ils ont des groupes criminels qui sont très violents, armés lourdement, avec des armes de guerre. Et plusieurs gardiens de la forêt ces dernières années, malheureusement, ont été assassinés alors qu'ils protéger la forêt. Donc c'est vraiment une guerre qui se mène sur le front de l'Amazonie avec ce peuple indigène, ces peuples indigènes qui sont le dernier rempart pour éviter la destruction totale de la forêt.
Ces séquences sont vraiment exceptionnelles. Comment vous avez réussi à vous faire accepter? Combien de temps ça vous a pris pour que vous puissiez tourner avec eux?
Alors c'est de longs mois d'enquête avant le tournage. C'est, je vous l'ai dit, une invitation notamment du chef Raoni qui nous a fait une première invitation, et ensuite ils ont consulté les astres, ils ont consulté le reste du groupe pour savoir si on pouvait nous accueillir. Donc ça a mis des mois d'enquête, de discussion pour au final être accepté sur le terrain.
Alors qu'avec eux vous êtes allé sur le terrain, dans la forêt, machette à la main, vous avez eu chaud, très chaud. Vous le dites, ça se voit un peu aussi. On a l'impression, quand on vous connaît, quand on vous entend régulièrement à l'antenne, que les conditions de tournage étaient particulièrement difficiles, c'était le cas ?
Ouais, c'était franchement l'Amazonie, c'est vraiment physiquement très difficile.
Ah oui ?
Il fait très chaud,
ouais,
très humide. Ces peuples indigènes, ils vivent dans la forêt depuis la nuit des temps, donc ils sont parfaitement adaptés. Je peux vous dire que nous, on n'est pas du tout adaptés à ces conditions.
Non, mais, je veux dire, ce qui me fait marrer, c'est que quand vous étiez dans l'océan Arctique, vous ne disiez pas qu'est-ce qui fait froid. Mais que là, vous dites qu'est-ce qui fait chaud.
Ah, mais clairement, c'était beaucoup plus difficile physiquement en Amazonie qu'au pôle Nord. Ouais, ouais. Moi, je trouve que, parce qu'il y a non seulement la chaleur, l'humidité, mais il y a aussi les insectes. Mmh. Vous laissez dépasser le moindre centimètre carré de peau, vous avez 10 piqûres, quoi. Donc c'est des conditions qui sont vraiment compliquées.
Alors je dois dire que si vous pouvez filmer ces gardiens de la forêt dans la jungle, c'est également parce que vous tournez avec une petite équipe réduite.
Ouais.
Vous êtes combien ?
On est 3 sur le terrain. C'est volontairement une équipe réduite, à la fois parce que c'est plus facile de se faire accepter, et aussi pour limiter au maximum le bilan carbone du tournage, de l'émission. On part avec une équipe réduite.
On le fait jamais d'habitude, mais là on va le faire. Les images sont vraiment très belles. Coup de chapeau à votre réalisateur, Guillaume Dumont. Vous restez avec nous, Hugo Clément. On va maintenant parler de ce qui se passe en France. A tout de suite.
Eurovendel.
En compagnie d'Hugo Clément sur le front de l'Amazonie, c'est après-demain, dimanche soir à 20h50 sur France 5. J'ai dit qu'on allait aller avec vous dans la suite de ce reportage en France. Pas dans n'importe quel département français, des images magnifiques, des témoignages très forts. On a déjà entendu, mais voici un autre, celui d'une Guyanaise, puisque c'est en Guyane que nous allons, qui a découvert qu'elle avait un taux de mercure très élevé dans le sang. Tout ça parce qu'elle mangeait depuis toute petite des poissons contaminés au fil des ans par une substance toxique.
J'ai grandi avec du poisson. J'ai mangé que du poisson. Mais depuis que j'ai entendu parler de mercure, tout ça, ben j'ai arrêté de manger poisson carnivore. Du coup, on mange que des congelés.
Ils doivent se priver de ce que leurs ancêtres mangeaient depuis des siècles.
La forêt amazonienne, c'est au Brésil, mais c'est également en France, en Guyane. Et voici cette mère de famille et ses enfants contraints de manger de la viande surgelée. Comment en est-on arrivé là ?
On en est arrivé là à cause de l'orpaillage, notamment l'orpaillage illégal, c'est-à-dire les chercheurs d'or, principalement brésiliens, qui traversent la frontière pour venir exploiter les sols guyanais. Et pour extraire l'or, ils utilisent le mercure et ils déversent ce mercure, qui est évidemment un produit très toxique, dans l'environnement. Ça finit donc dans les rivières, puis dans les poissons et dans les personnes qui mangent ces poissons. Et donc on accompagne le GIGN qui lutte contre les orpailleurs clandestins, mais aussi un médecin français qui va soigner ces populations guyanaises, ces Françaises et ces Français qui sont contaminés au mercure, notamment les enfants qui souffrent de retard d'apprentissage.
Alors on va parler du GIGN tout à l'heure, justement vous parlez de ça pour les enfants, ça va au-delà d'un problème médical, puisque avoir du mercure dans le corps, donc dans le cerveau, ça fait baisser l'attention des élèves, donc les résultats scolaires, donc le QI. La lutte contre cet orpaillage, c'est difficile. Et là encore, vous avez pu tourner des images assez exceptionnelles. Vous avez pu suivre en exclusivité l'intervention d'une équipe du GIGN, unité d'élite de la gendarmerie, arrivée en hélicoptère au-dessus d'un site d'orpaillage clandestin. Malheureusement, il y en a des centaines. Tendez bien l'oreille.
L'objectif de la mission d'aujourd'hui, c'est d'aller surprendre les orpailleurs illégaux sur un maximum de campements. Les gendarmes vont essayer de détruire le plus d'équipements possible. Donc ça peut être des moteurs, ça peut être des pompes, des tuyaux.
Il est très rare d'apercevoir les chercheurs d'or. En entendant le bruit des hélicoptères, ils s'enfuient sous les yeux du GIGN. On les appelle les Garimpeiros. D'après les estimations, il y en aurait 10 000 cachés dans toute la Guyane.
Les Garimpeiros se cachent, c'est pour ça que le combat est particulièrement compliqué, ou c'est aussi parce que l'hélico peut pas se poser ?
Oui, c'est logistiquement très compliqué pour les gendarmes. En fait, les chercheurs d'or, ils ont compris que les gendarmes intervenaient en hélicoptère, donc ils plantent d'immenses perches pour empêcher les hélicos de se poser rapidement et donc avoir le temps de s'enfuir. Et donc l'objectif du GIGN là-bas sur place, c'est pas vraiment d'arrêter les chercheurs d'or parce que c'est quasiment impossible et c'est très risqué, c'est de détruire leur matériel, notamment les moteurs dont ils se servent pour pomper l'eau et extraire l'or. Et c'est une guerre logistique pour essayer de rendre moins rentable l'exploitation illégale de l'or.
Alors quand on voit ces images, on se dit ils ont de la chance d'être en France, que je rappelle que la Guyane est en France.
Ouais.
Je me disais, s'ils étaient en Russie, quelqu'un aurait donné l'ordre de tirer.
Ben, c'est d'ailleurs ce qui se passe côté brésilien, où la police et l'armée brésilienne sont beaucoup moins respectueuses d'une certaine forme de règles et que, évidemment, côté français.
Alors, et c'est pour ça qu'ils viennent en France.
En tout cas, les témoignages de certains grimperos laissent entendre que les gendarmes côté français sont beaucoup plus respectueux que les méthodes de travail côté brésilien.
Alors, cette intervention du GIGN en hélico, c'est la séquence d'ouverture du film, très spectaculaire. C'est prenant, c'est accrocheur. Comment s'est passé le tournage? Vous avez eu peur? Parce que parfois, il y en a qui ont tiré sur les types qui descendent de leur filin.
Il y a des militaires français qui ont perdu la vie dans ce genre d'opération, qui ont été pris pour cible par les grimperos, parce que c'est une mafia en face. C'est des gens qui sont armés. Il n'y a pas de loi. C'est le Far West dans cette forêt.
C'est un mélange des deux, parce qu'il y en a qui sont armés, mais c'est aussi des pauvres bougres qui sont en short et en sandales.
C'est ce qu'on montre dans le documentaire, c'est qu'il y a le pauvre bougre, comme vous dites, qui vient pour essayer de gagner un peu sa vie, mais il est encadré par un système mafieux, par des gens armés qui n'hésitent pas à faire usage de la force quand il faut défendre leur business.
Pardonnez-moi, je vous interromps. Ouais. Vous allez essayer de les suivre parce qu'on aimerait bien connaître leur vie à ces gars-là, à ces jeunes types.
Alors, évidemment, nous, quand on a atterri sur ces sites d'orpaillage illégal, si des orpailleurs avaient été là et qu'on avait pu aller leur parler, on l'aurait fait, évidemment. Le problème, c'est qu'ils s'enfuient, ils partent dans la forêt et c'est absolument impossible, déjà pour les gendarmes et encore plus pour nous, simples journalistes, avec notre matériel,
non,
de les suivre
par là,
dans la forêt.
L'objet d'une prochaine enquête dans quelques mois sur le front.
Ça serait effectivement passionnant d'arriver à s'infiltrer dans un rayon d'orpaillage illégal et de voir l'envers du décor.
Comme dans ce studio, on voit porter des masques tout le temps, on voit faire un test également. À quel point la situation sanitaire vous a gêné pour tourner?
Elle nous a pas vraiment gêné, disons qu'elle a compliqué la logistique et l'organisation, parce qu'évidemment quand on va voir les peuples indigènes, notamment les Kayapo, le chef Raoni, on voulait surtout pas amener le coronavirus dans des endroits où il était pas encore, ou en tout cas il était pas encore très fort. Donc on a fait un nombre incalculable de tests avant, pendant et après le tournage pour être certain de ne pas présenter de risque. Et heureusement, tout s'est bien passé puisqu'aucun membre de l'équipe de tournage n'a jamais été testé positif.
Alors, sur le front change, l'émission change de format, une heure au lieu d'une heure et demie, elle change de jour de diffusion, ça passe du mardi au dimanche, mais toujours en prime time, ça change de périodicité, ça devient mensuel, et sur le front change de chaîne, de France 5, France 5 désormais à la place de France 2. Qu'est-ce que ça change pour vous, Hugo Clément?
Ça change qu'on peut avoir une émission mensuelle. Nous, c'était vraiment notre objectif et notre envie au départ d'arriver à tous les mois proposer quelque chose, et pour être en mensuel, il fallait qu'on soit sur France 5, c'était pas possible de proposer une mensuelle sur France 2. Donc on est très heureux parce que France 5, comme l'a dit Delphine Ernot, la présidente de France Télévisions, c'est aujourd'hui la chaîne environnement du service public, et on est très content de pouvoir incarner une émission forte sur cette chaîne-là.
Alors sur le front, c'est pas qu'à la télévision, il y a également les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, votre compte Hugo Clément, sur suite de Slash, qui est l'offre numérique de France Télévisions. Qu'est-ce qu'on peut y voir? On voit les mêmes choses ou des choses supplémentaires?
On voit des choses supplémentaires, des choses différentes. Il y a des sujets toutes les semaines qui sont mis en ligne sur les réseaux sociaux de France Télévisions, sur France TV Slash, et on traite de sujets qui ne sont pas forcément traités dans les documentaires à la télé. Donc c'est une offre complémentaire qui permet d'aller chercher un autre public, à savoir le public plus jeune qui ne regarde pas forcément la télévision et qui est très présent sur le téléphone et les réseaux.
Il y a combien de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux? Je pose la question en sachant que c'est astronomique.
À peu près, si on cumule tous les réseaux sociaux, à peu près 2 millions, un peu plus de 2 millions de personnes.
Vous attendez quelle audience de dimanche? On ne va pas se mentir. Une des raisons pour lesquelles vous avez passé de France 2 à France 5, c'est que la chaîne était un peu déçue des audiences, même si ça cartonnait ensuite.
Ça, c'est vous qui le dites, c'est pas la chaîne.
Évidemment, un patron de chaîne ne va jamais dire officiellement en in, mais 1,9 million, c'est bien, mais c'est pas non plus complètement dingue. Vous attendez quelle audience sur France 5?
Je partage pas votre constat sur les audiences de l'année dernière. Je trouve qu'on a fait des audiences très honorables au niveau des autres magazines d'information de France Télévisions.
C'est vrai.
Pour cette année, on attend pas un chiffre précis. C'est très difficile. Honnêtement, ce qui compte, c'est plutôt le côté qualitatif. Mais si on fait 700 000, on sera déjà très content. C'est une émission sur l'environnement, c'est exigeant et c'est d'ailleurs très courageux de la part de France Télévisions de proposer ce genre de format en prime
time. Et c'est là, je précise, où on voit la force des chaînes, puisque dans les 700 000, vous faisiez 1,9 million. C'est vraiment, les chaînes sont des vecteurs et des boosters des programmes. Merci beaucoup Hugo Clément. Je le rappelle, sur le front de l'Amazonie, c'est après-demain, dimanche soir, 20h50 sur France 5. Documentaire qui sera suivi d'un autre film sur le front en Australie, sur la Grande Barrière de Corail. Et là encore, magnifiques images et rencontres avec des personnes qui luttent et qui gardent espoir. On en a vraiment besoin. Merci Hugo.